En vain, les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard, et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Des fils, voilà le patrimoine que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un guerrier, les fils de ta jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte lorsqu'il entrera en contestation avec son adversaire aux portes de la ville. Parole du Seigneur. Et nous nous arrêtons là et j'aimerais encore prier un instant pour remettre tout cela. Seigneur, nous voulons avant tout encore te remercier. Oui, te dire merci pour ta parole, car elle nous parle de toi. Elle nous permet de te redécouvrir jour après jour. Oui, Seigneur, merci parce qu'elle demeure fidèle et elle continue aujourd'hui de nous interroger, de nous interpeller. Aussi, Seigneur, que par la voix et la sagesse que ton esprit nous donne, tu puisses encore ensemble, chacun, nous parler directement par elle. Oui, Seigneur, puisses-tu nous bénir encore pendant ce temps où nous voulons regarder ensemble à ta parole. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Par ce psaume, Salomon semble aborder comme des sujets primordiaux à l'existence humaine. En effet, dans une première lecture, peut-être un peu hâtive, on y entend parler de la construction d'une maison, de la sécurité recherchée, ou encore de la famille qui se pérennise par la descendance. Des sujets ô combien universels. Ce psaume fonctionne d'ailleurs comme une forme d'écho au chapitre 11 de la Genèse, un chapitre qui commence par un projet humain d'envergure, celui de s'assurer une renommée et une puissance considérable en comptant uniquement sur la capacité humaine à bâtir. Cela donnera bien sûr Babel avec son retentissant échec, mais ce chapitre de la Genèse d'ailleurs ne s'arrête pas là. Il y a encore un récit qui le continue et il se poursuit par une généalogie, la généalogie de Sem, dont le dernier descendant cité, Théra, eut trois fils, dont un certain Abraham, qui reçut lui, un peu plus tard, la promesse et la bénédiction divine d'une descendance innombrable. Ce ne sont pas du tout les mêmes récits, mais il y a aussi là comme un même fil directeur dans l'un et l'autre, une même logique presque qui opère. Et revenons à notre psaume, à ce cantique. Et dans ce cantique, si l'invitation à faire confiance à l'Éternel dans nos projets humains de construction est évidemment perceptible, et il serait dommage d'ailleurs de ne pas entendre le lien que tisse le psalmiste entre ce premier verset qui évoque cela, et se situer un peu plus loin, évoquant la famille. Car l'expression « bâtir la maison » n'est pas uniquement dirigée dans le sens de la construction d'une bâtisse, sous la plume ici de notre psalmiste. Elle peut tout aussi se comprendre dans le sens de la construction de ce que je vais appeler ici pour l'instant la maisonnée, ou pour un langage plus clair, de la famille. D'ailleurs, dans l'hébreu, on ne lit plus aujourd'hui pour beaucoup, mais l'hébreu souligne à quel point, d'ailleurs, ici, le psalmiste, où termes et des expressions bâtisseurs d'un côté, plus ou moins bonimes, je crois, comme le mot « fils », qui est là dans l'hébreu « banim »,« banim »,« bonim », se font semblables à une petite vocalisation près. Autrement dit, si les sujets évoqués semblaient toucher à différents thèmes très universels, au bout du compte, la construction de ce psaume dévoile un thème central, la famille. Et par ce recentrement sur le thème de la famille que semble nous suggérer ici l'auteur dans la manière dont il a voulu le composer, on peut aujourd'hui être surpris par les images déployées dans la suite de ce psaume. Celles d'un carquois où abondent des flèches, des images ou une image guerrière, qui semble faire écho d'ailleurs au gardien qui veille à la protection de la ville, évoqué au tout début de ce psaume. Comment comprendre alors le sens donné à ce qui semble être une image, une illustration de la bénédiction de Dieu. De nombreuses flèches, des flèches, qui abondent dans un carquois. C'est pas comme ça qu'on imagine sa famille, hein, quand on vient la dépeindre. Enfin, pour vous, je ne sais pas. Tout d'abord, notre psaume semble, et notez-le dans son premier verset, semble se moquer de tous ceux qui s'efforcent d'investir dans l'avenir qu'ils veulent bâtir de leurs mains. Oui, le psaume se moque un peu, et peut-être se moque-t-il de nous encore aujourd'hui, parce qu'il a le désir peut-être de nous interpeller. Et dans la majorité des civilisations antiques, qui d'ailleurs étaient très souvent, si ce n'est tous, de nature patriarcale, lorsqu'un couple n'arrivait pas à avoir des enfants, et notamment des fils, cela était perçu comme une grande malédiction divine. En effet, à leur décès, tout leur bien pouvait être dispersé pour ceux qui étaient encore leurs proches. Et ceux qui, justement, avaient essayé d'entreprendre et d'amasser, ne pouvaient savoir que tout ce qu'ils avaient pu faire jusqu'ici ne serait alors pas pérennisé. De plus, les enfants, et notamment les fils de la jeunesse, pour reprendre ici l'expression du psalmiste, c'est-à-dire ceux qui pouvaient être donnés alors que le couple n'avait pas encore atteint la force de l'âge, étaient pour eux la garantie d'être soutenus, secourus, protégés, soignés, quand viendra ou viendrait l'âge de la vulnérabilité, la vieillesse. Car ces fils, nés suffisamment tôt, seraient alors, eux, dans l'âge de veiller sur eux, de pourvoir à tous leurs besoins, car ils seraient à même de reprendre les choses, de prendre la relève et de s'occuper, surtout, bien évidemment, de leurs parents. Alors, je me permets une petite remarque ici, mais il n'est question que de fils. Cela peut peut-être aujourd'hui choquer un peu, peut-être. Et les filles dans tout ça, me diriez-vous ? Pourquoi le psalmiste n'en fait pas cas ? Alors, on peut en tirer une conclusion assez hâtive, là aussi, en se disant « C'est un mec de son temps, ça devait être un misogyne, basta, n'allons pas plus loin. » Je crois que ce serait un peu aller trop vite. Le psalmiste, pour moi, ne fait pas ici de misogynie, me semble-t-il, en parlant seulement des fils, car ce sont eux le plus souvent qui restaient attachés à leurs parents. Là où s'il y avait eu des filles, les filles venaient à les quitter suite à leur propre mariage et devenaient alors, elles, un soutien auprès de leur belle famille. Voilà un peu la logique des choses, et voilà pourquoi le psalmiste met en avant des fils. Je pense qu'il n'aurait pas forcément oublié les filles, mais voilà, la logique était tout autre. Et à ce sujet d'ailleurs, n'hésitez pas à aller relire un tout petit livre biblique qui illustre un peu cela, mais vous en apprendrez aussi tant d'autres. Le livre de Ruth. Le livre de Ruth, où vous pouvez surtout y entendre la situation tragique de sa belle-mère, Naomi, qui avait deux fils et un mari. Tous les trois décédèrent et elle n'avait plus rien pour elle, pour ses vieux jours. Elle n'avait plus l'assurance de pouvoir continuer de se nourrir. Elle n'avait que deux belles filles et l'une va rester attachée à elle. Et ce sera là aussi que jaillira une grande bénédiction pour elle, sa famille et plus tard toute une lignée qui d'ailleurs s'illustrera par un certain roi David. Je vous laisse aller lire ce livre et les redécouvrir. Mais je reviens un petit peu plus à notre psaume. Voilà un petit peu ce que nous pouvons entendre à propos de la famille, telle que le psalmiste le voyait, la vivait, la comprenait. Et c'est ainsi que d'ailleurs sont dépeints les enfants d'une famille, eux qui furent pendant longtemps l'assurance et la protection dans la vieillesse au sein d'une famille, ceux que Dieu offrait d'une génération à l'autre. Leur nombre et leur présence assuraient la sérénité des vieux jours au sein de chaque famille. Or ça, c'était hier. Mais est-ce que ce psaume a du sens pour nous aujourd'hui ? Nous qui vivons les choses dans une société tellement différente, comment pouvons-nous entendre à une époque où, notamment, nos retraites, pour tous ceux qui en bénéficient, et j'espère que c'est le cas de vous tous, ou bientôt, sont assurés par différentes modalités de régime qui aussi, alors je crois savoir, entre répartition, capitalisation, mais je suis très très nul sur le sujet. Donc, osons quelques questions peut-être un peu naïves, à première vue. Premièrement, devrions-nous entendre ce psaume comme un appel, alors ça va être très très naïf, hein, comme un appel à procréer davantage pour accéder au statut de famille nombreuse, parce que ce serait là la vocation que nous aurions en tant qu'enfants de Dieu. Je crois que parfois ça s'est entendu, hein. Je ne sais pas. Alors, je la pose quand même. Je vous apporte une réponse. Je ne dis pas qu'elle est juste et parfaite. À mon avis, non. Pour autant, cela n'enlève rien à la vérité fondamentale que tout don d'un enfant reste un don gracieux de Dieu. Et c'est peut-être là la première chose que nous entendons dans ce psaume, avant tout, même si ce n'est peut-être pas la pointe. L'accent fort de ce psaume est déjà là. Un fils ou une fille est avant tout un don de Dieu. Et si cette grâce, parfois, malheureusement, tarde à venir, et si elle se fait attendre longuement, après parfois maints efforts et épreuves au sein d'un couple, n'en oublions pas qu'il ne s'agit pas non plus là, dans ces situations-là, d'une malédiction, le plus souvent. Mais que notre Seigneur, dans le mystère de son plan, pour nous, permet que de telles épreuves puissent survenir en vue d'un bien plus grand encore. Mais je sais à quel point cela peut être douloureux pour les couples et les familles qui vivent cela. Mais je reviens et je rappelle ce que peut-être nous entendons déjà dans un premier écho. L'enfant est un don. Il est la manifestation la plus éclatante et en même temps l'une des plus imperceptibles de la grâce de Dieu dans nos existences, car il est celui qui est donné pendant que nous dormons, pour reprendre le langage du psalmiste. Et je pense que c'est l'une des choses que nous pouvons comprendre quand nous entendons cette expression un peu étonnante. Oui, Dieu nous fait grâce de maintes choses pendant que nous dormons, à commencer aussi par les enfants. Aussi, à une époque où nous entendons un peu plus souvent, clamé, notamment de droit à l'enfant, une expression qui m'étonne beaucoup, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais avec notamment ces dérives dangereuses, et parfois, tel que je le comprends, alors vous ne pouvez pas être d'accord avec moi, pourquoi pas, mais qui me semble profondément égoïste. Il faut oser aujourd'hui plus encore réaffirmer que tout enfant est plus que tout une grâce de Dieu, et que ça n'est pas un droit. Mais alors, je reprends une autre question, je l'espère un peu moins naïve, que retenir de ce psaume aujourd'hui ? Faut-il le comprendre comme un appel à ne pas trop attendre pour avoir des enfants ? Ça pourrait être cela aussi. Il est question des fils de la jeunesse, à l'image d'une bonne partie des générations actuelles de parents, à laquelle je m'intègre d'ailleurs, et qui très souvent deviennent parents, bien après la trentaine parfois. Est-ce là aussi peut-être le sens qu'il nous faudrait garder encore de ce psaume pour nous aujourd'hui ? Or, certes non. On pourrait dire car grâce à Dieu, à ce qui aussi a été comme des avancées dans notre société, nous bénéficions d'une espérance de vie qui offre à beaucoup la joie de connaître enfants, petits-enfants et parfois même arrière-petits-enfants. Et on ne peut que se réjouir de cela. C'est là aussi une grâce. Et sans d'ailleurs pour autant avoir besoin d'être parent dès l'âge de 18 ans. Bon, ça c'est juste un petit constat, mais tout de même. Et là, je crois entrer davantage en résonance dans ce que je vais dire après, avec ce qui est au cœur de ce psaume, me semble-t-il. Aussi, je me permets de le faire sous la forme d'interrogation. Nous tous, aujourd'hui, sommes-nous si sages lorsque, par exemple, nous venons à privilégier nos études. Et par la suite, parce que c'est toute une suite, notre situation professionnelle, dans l'espérance d'une stabilité tant désirée, d'un confort qui nous permettra de jouir de tout le tralala moderne, avant d'oser se lancer, pourquoi pas, dans un projet de mariage. Et par la suite, d'espérer avoir des enfants. Il y a une logique aujourd'hui qui est là, dans ce monde, que parfois peut-être nous imitons. En partie. Alors, comme je l'ai dit, ça n'était pas voulu. Je ne l'ai pas fait en fonction des circonstances, mais il s'avère que les circonstances sont là. Et très récemment, je crois que c'était vendredi soir, ça doit être la seule fois où dans la semaine j'ai essayé de prendre un peu note des actualités, j'ai entendu un exemple récent d'une de ces évolutions de notre société ici en France. J'ai entendu parler que voilà, dans tout ce projet de loi où il a été question de PMA surtout, mais de plein d'autres choses autour de la bioéthique, il y avait aussi un autre sujet qui est celui de l'autocongélation des ovocytes. Alors désolé, c'est un peu technique, je vais essayer de ne pas être trop compliqué, mais il y a, je crois, eu maintenant l'accord ou le fait que cette technique-là est proposée. Qu'est-ce que c'est ? Je vais essayer d'être simple, j'espère ne pas me tromper. L'autocongélation des ovocytes est désormais possible, c'est-à-dire que dans le but notamment de miser et de privilégier avant tout, là ce sont pour les femmes, mais malheureusement c'est à l'image de ce que les hommes ont eu fait aussi, hein. Ne jetons pas la pierre uniquement aux femmes, de miser sur sa carrière professionnelle, on offre cette possibilité de pallier à la baisse de fertilité arrivée après un certain âge, par souci de donner priorité à une carrière a priori, et donc de planifier à ce moment-là une grossesse plus tardive. Je n'envisage d'avoir des enfants que après cela, parce que d'abord je veux faire ceci. Et donc, pour m'en assurer, je demande la congélation de mes propres ovocytes, histoire de m'assurer d'avoir un enfant un jour. Quand je dis cela, je ne fais que citer ce qui se passe aujourd'hui, ce qui a été décrété, je crois, pas plus tard que cette semaine. Et je ne veux surtout pas ici apporter de jugement sur ce fait nouveau-là. Ce serait entrer dans un débat et ce n'est pas le moment. Mais je tenais à souligner les évolutions notables qui font jour aujourd'hui dans notre société et qui montrent un peu le chemin vers laquelle toute notre société tend à avancer et vers laquelle aussi nous sommes tirés d'une certaine manière. Alors, voyons ce qui se passe, entendons ce que dit ce psaume et posons-nous aussi ces questions-là. Et je continue encore de laisser quelques interrogations pour nous pousser à regarder à Dieu. N'est-ce pas là aussi une forme plus récente et actuelle de trop vouloir compter sur nos propres forces et de nous assurer à la sueur de notre front un avenir décent en excluant tout bonnement Dieu, quand nous parfois privilégions de... Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, j'ai fait plus de 10 années d'études. Je ne dis pas que je suis pas autant. Mais parfois, effectivement, nous en remettons ce que Dieu à proposer, ce que Dieu a pensé et conçu pour que nous puissions engendrer et jouir de ce qu'il veut nous donner, mais de le remettre à tellement plus et douloureux. Alors attention, il y a des situations où parfois nous n'avons pas le choix. Je continue encore avec mes autres interrogations. N'y a-t-il pas aussi, parfois, pour nous tous, dans cette crainte du lendemain, si contemporaine, un oubli de Dieu dans notre présent. Je reprends juste le premier verset, mais n'est-ce pas là ce que nous entendons ? Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui. N'y a-t-il pas dans notre crainte du lendemain, qui est un fait avéré chez beaucoup, un oubli de Dieu dans notre présent, une forme de manque de foi dans notre Créateur qui désire que nous nous appuyions et comptons davantage sur lui. N'est-ce pas là d'ailleurs tout le cœur de ce psaume ? Et l'allusion au sommeil du verset 2, où Dieu pourvoit dans notre sommeil, n'est surtout pas à comprendre, comme vous le devinez, comme un éloge de la paresse. Si vous comptez sur Dieu, vous n'avez jusqu'à vous tourner les pouces toute votre existence et vous allez voir, les bénédictions vont pleuvoir. C'est pas ça, hein ? Mais bien davantage, comme une vive critique du suractivisme, de la course au toujours plus, et nous en sommes là aujourd'hui. Or, notre société en général, nous parlons constamment de croissance aujourd'hui. S'il n'y a pas de croissance, on est foutu. Voilà le message global. Et ce n'est pas de la politique, c'est tout le monde qui en parle, au niveau économique, au niveau entrepreneuriat, dans tous les sens du terme. Et si vous ne consommez pas, on est foutu. J'exagère un peu, mais c'est ça le mot d'ordre. Donc il vous faudra travailler plus pour que cela marche. Donc il va falloir que vous trimiez davantage, il va falloir que vous alliez plus longtemps au travail. Bon, j'exagère, mais c'est ce que nous avons intégré nous-mêmes. Et pas seulement d'un point de vue professionnel, mais dans tout ce qui fait notre vie. Trop souvent. Nous vivons, pour beaucoup, si ce n'est une grande majorité, même nous chrétiens, dans une logique du toujours plus, y compris peut-être aussi dans nos vies d'église. J'y reviendrai peut-être un tout petit peu, quoique. Mais j'aimerais, arriver ici, citer un bonhomme, un certain Alphonse Maillot qui a écrit deux livres à propos des psaumes, qui d'ailleurs, ces livres-là s'appellent les psaumes 1 et 2, en fonction des psaumes qu'il a justement relus. Et il dit ceci, à propos de ce psaume-ci, « Les fils, pour le psalmiste, une sorte de partage gratuit, une cession de son héritage, une donation que le Seigneur, dans sa miséricorde, consent aux hommes. Le Seigneur y donne ce qui n'appartient qu'à lui. Il fait cadeau de sa puissance, mais il reste le seul maître de ce cadeau. » Je reviens à ce que j'ai dit avant d'avoir cité ce cher Alphonse Maillot, mais dans une vie où pour beaucoup d'entre nous, le « toujours plus » est devenu un mot d'ordre général. Que pouvons-nous entendre à travers ce psaume? Ne sommes-nous pas aussi sujets à cette canne vaine d'un « toujours plus » ici ou là, dans tel ou tel aspect de notre existence? Dans un monde où le mot « croissance » s'impose comme le moteur de toute chose, quelle est la place pour aujourd'hui de l'acceptation de la grâce, du contentement et de l'émerveillement face aux dons généreux de Dieu dans nos vies, à commencer par celui que j'ai qualifié de plus imperceptible, parce qu'il semble si évident qu'on en oublie peut-être que c'est avant tout une grâce de Dieu, ce qui faisait le cœur de ce psaume, l'enfant, qui quelque part donne vie à la famille. Quelle place accordons-nous concrètement à Dieu ? Pour qu'il bâtisse là où nous sommes, plus encore qu'ailleurs, nos familles. Là où nous aimons parfois à investir dans des choses, certes très bonnes, mais là aussi il y a une logique du toujours plus, dans le sport, dans des activités artistiques, etc., etc., au point que, parfois, notre vie avec lui, dans notre famille, se mesure à trois fois rien. Oui, nous misons tellement là-dessus, nous investissons, et je le dis, ce ne sont pas de mauvaises choses en soi. Toutes ces activités, ces loisirs possibles, mais qui peuvent avant tout, malheureusement, si nous n'y prenons pas garde et que nous nous laissons envahir aussi par cela et diriger par cela, qui font ombrage au temps, à l'énergie, à des temps même de qualité que nous pourrions lui accorder avec ceux qu'il nous a confiés. Je pense que malheureusement, encore trop souvent, nous en sommes peut-être là. Et je m'y inclus. Pour finir, et je ne veux pas être beaucoup plus long, je reste avec des interrogations. Alors, si vous avez envie après d'échanger, venez me voir. Mais je veux qu'on puisse le prendre, le réfléchir et puis le méditer tout à l'heure, pour le remettre en prière ensemble. Pour finir, j'aimerais ouvrir une dernière piste, permettez-le-moi. Une piste en évoquant cette autre famille, qui elle aussi n'est que grâce, purement, l'Église. Car ne l'oublions pas, nous sommes tous enfants adoptifs du Créateur, en raison de l'œuvre à la croix accomplie par Jésus, qui est à la fois notre Seigneur, et ça nous savons le dire, mais aussi notre frère. Rappelez-vous les paroles qu'il a eues dites, alors, je ne vais pas les citer précisément, mais quand à un moment, dans le début de son ministère, allez voir les trois premiers évangiles, sa mère et toute sa fratrie viennent le chercher, là, en lui disant « Hé, tu reviens à la maison, là. T'es l'aîné, t'as des responsabilités, s'il te plaît. » Je ne sais pas quels sont les mots, mais ça devait être dans cet ordre d'idée-là. Que va-t-il dire? Qui sont vraiment ses frères et ses sœurs? Même ceux qu'il va dire « Je vais aussi les appeler mères. » Ce sont ceux qui, quelque part, s'attachent à lui. Ceux qui commencent aujourd'hui à se faire disciples parce qu'ils ont foi en lui. Déjà là, avant même que l'Esprit ne soit donné un jour, il commence déjà à les considérer comme frères, comme sœurs, et pourquoi pas comme mères. Peut-être Jésus, un de ces jours, viendra vous voir en disant « Chère maman, je ne suis pas sûr encore, mais en tout cas, à ce moment-là, il osait le dire ainsi. Il y avait certainement des dames tout aussi âgées que sa mère qui lui accordaient davantage foi que sa mère à ce moment-là, et il la traitait de mère. » Dans ces paroles-là, dans cette interrogation, dans cette interpellation qu'il a envoyée à la foule et à ses disciples. Oui, Jésus nous appelle ses frères, nous faisons partie de sa famille. C'est lui qui nous y a incorporés par ce qu'il a fait. Mais alors cette famille, N'est-elle et ne doit-elle pas être aussi telle les flèches qui abondent dans un carquois? Et c'est une image de bénédiction, hein. Cette récompense est ce don qui nous a été fait par Dieu, où nous trouvons l'assurance de nous savoir portés par l'amour des uns des autres, de nous savoir portés et soutenus par leurs prières, par leurs actes d'amour, par leur présence, par toutes ces petites choses qui disent à quel point ils sont là aussi pour vous parce que Dieu vous les a données. Alors ils sont imparfaits, ces frères et sœurs, mais ils vous ont été donnés, tels des flèches dans un carquois, et ils veillent pour vous. Avant tout dans la prière, j'en suis sûr. Et je vais finir sur une petite note, alors. C'était un peu voulu, il faut l'avouer. Mais ce n'était pas l'objectif de ma prédication. À la veille du redémarrage de la vie de nos maisonnées, je reviens sur ce mot que j'ai employé tout à l'heure. Vous me voyez venir, pour ceux qui m'entendent. Oui, à la veille du redémarrage de la vie de nos maisonnées, ça a été dit tout à l'heure en annonce. Donc c'est pas la semaine prochaine, ben, tout dépend comment on l'a compris chacun, tout dépend si c'est aujourd'hui que ça commence ou si c'est demain. Mais dans 15 jours environ, nous serons dans ce temps de nos vies de maisonnée, de ce que nous appelons aussi les groupes de maison, de ces autres moments, de ce qu'on peut aussi pourquoi pas appeler ces autres endroits où se vit encore la vie d'église, c'est-à-dire la vie fraternelle. Ne pouvons pas nous encore y entendre à travers ce psaume, même si c'est déjà tiré un peu la chose, une forme d'encouragement au sujet de cette famille adoptive à laquelle le Seigneur nous a attachés. Il est tel, je suis telle une flèche ajoutée dans ce carquois. Et c'est une grande bénédiction de voir que nous y avons été ajoutés par Dieu. Oui, je finis là-dessus, l'Éternel désire bâtir cette maison. Et nous pouvons en être les bénéficiaires et heureux privilégiés par sa grâce, car il veut nous y associer à cette construction. Et je ne parle pas du bâtiment, laissons-le tomber pour aujourd'hui, oublions-le même. Rendons grâce à Dieu, notre Père, car il en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Qu'on puisse s'arrêter sur cette dernière parole et ensemble faire silence. Désolé si je vous ai laissé plusieurs interrogations, mais prenons ensemble un temps dans la prière et que quelques-uns puissent prier. Je conclurai moi-même par la prière. Seigneur, nous voulons maintenant et à nouveau te rendre grâce, te dire merci. Merci parce que tu es ce Dieu qui continue de faire grâce. Seigneur, donne-nous surtout d'apprendre à savoir nous appuyer bien plus sur toi encore, aujourd'hui, dans chacun de nos projets, dans tous les aspects de notre vie, à ne pas vouloir miser sur nos propres forces, mais à s'attendre à toi davantage. Tout en restant responsable aussi de ce que tu nous confies et de ne pas entrer dans l'oisiveté. Mais Seigneur, oui, apprends-nous à dépendre de toi plus encore aujourd'hui. Non seulement dans nos propres projets, dans ce que nous désirons entreprendre, dans peut-être aussi nos carrières ou nos études, mais plus certainement aussi dans le cadre de notre famille, auprès de nos parents, ou pour ceux qui aujourd'hui sont déjà parents, de savoir aussi prendre du temps et de s'attendre à toi avec ce que tu nous confies. Seigneur, donne-nous de grandir dans ces choses-là, car peut-être il y a encore du chemin pour plusieurs d'entre nous. Donne-nous de nous attendre à tes merveilles et à tes grâces dans ce que tu nous confies, dans ce que tu nous as déjà donné. Et Seigneur, merci, oui, parce que toute chose nous vient de toi, toute chose est une grâce. Et Seigneur, j'aimerais aussi te remettre notre communauté, notre Église, car elle est cette famille que tu nous donnes, ce sont ces frères et ces sœurs que tu nous as confiés à chacun. Seigneur, aussi là, donne-nous d'apprendre à compter sur toi, à vouloir participer à la construction de cette famille, mais en regardant à toi qui es l'architecte de toutes choses, ce que tu as déjà planifié pour nous. Seigneur, encore, apprends-nous à dépendre de toi, apprends-nous à nous appuyer sur toi et à prendre confiance en toi, plutôt que de regarder à ce que nous croyons savoir faire mieux que quiconque. Seigneur, donne-nous tout simplement la sagesse et l'humilité de savoir être tes enfants. Amen.
Amen. Mais c'est vrai que Jésus est notre Sauveur, il est notre Seigneur, il est aussi notre frère, comme Emmanuel nous l'a rappelé. Et alors que j'invite la chorale à reprendre place, les musiciens, je les remercie beaucoup parce qu'hier c'était leur rentrée aussi en tant que chœur d'église, en tant que chorale. Et en nous regardant ensemble, c'est vrai que je m'imaginais il y a peut-être 10, 20 siècles, nos familles, on ne se connaissait pas. On était séparés par la géographie, par les coutumes, par la culture. Et le Seigneur Jésus est notre dénominateur commun. Et c'est celui qui a cassé toutes les barrières. Et avant d'introduire ce prochain chant qui s'appelle « En Jésus seul », je tenais du coup à relire ce passage d'Éphésiens 2 qui rappelle cette réalité.